Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
10 ans après l'attentat de Charlie Hebdo, la caricature, la liberté d'expression sont-elles menacées ? Au Danemark, une loi interdit le blasphème. Au Portugal, le dessin de presse se porte bien. Les fake news de l'Antiquité à nos jours, au détour d'une expo très nourrie à Budapest. Et puis la Bulgarie n'a plus de frontières avec l'UE en ce début d'année. Voilà le programme d'Accent d'Europe aujourd'hui. Dix ans après l'attentat djihadiste contre l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo, scène de recueillement devant le siège du journal à Paris.
Mesdames et messieurs, nous sommes rassemblés aujourd'hui dans le souvenir des victimes de l'attentat survenu en ces lieux, il y a 10 ans, le 7 janvier 2015. À la mémoire des victimes de l'attentat terroriste contre la liberté d'expression perpétré dans les locaux de Charlie Hebdo, le 7 janvier 2015.
C'est là qu'on a joint Aske Munk, journaliste danois, correspondant à Paris du Weekend Avisen. Il suit de près ce dossier, car c'est au Danemark que le journal Jyllands-Posten avait en premier publié en 2005 les caricatures de Mahomet. Les deux publications entretenaient donc des liens très particuliers.
Charlie Hebdo était le seul journal à vraiment soutenir à 100% Jyllands-Posten dans la publication des caricatures ou de satire, des dessins satiriques du prophète Mahomet, qui avait publié Jyllands-Posten et qui avait causé une fatwa sur le journal danois.
Si bien que lorsqu'il y a eu l'attentat de 2015, j'imagine que ça a été une déflagration pour ce journal également et pour le Danemark.
Oui, bien sûr, on était très très choqués par ça, d'autant plus qu'on en avait beaucoup parlé, parce qu'il y a, vous vous souvenez bien qu'il y a eu le procès en 2007 pour des organisations islamistes contre Charlie Hebdo, où le rédacteur qui avait publié les caricatures de Mahomet, Flemming Rosé, avait porté témoignage aussi au tribunal. Donc on avait suivi ce procès de très près, donc tous les journalistes danois connaissaient, avaient fait des interviews avec Sharp, T-News, peut-être Kabu aussi, mais bon, on les connaissait tous, quoi. Donc les dessinateurs danois aussi de presse étaient très attachés à leurs confrères de Charlie Hebdo. Donc c'était un choc pour nous aussi, d'autant plus que, ben, comme ici en France, personne n'avait imaginé que des dessinateurs de presse soient pris pour cible des attentats terroristes.
De quelle manière, selon vous, la fatwa contre le journal danois Jyllands-Posten, l'attentat contre Charlie Hebdo, ont changé la manière dont le Danemark gère la liberté de la presse et la présence de caricatures dans les journaux ?
Bon, tout d'abord, il y a une peur immense dont on parle, mais on ne parle pas assez, à mon avis. Même dans l'éducation, on n'ose pas montrer les caricatures de Mahomet par peur d'offenser, ou parce qu'on a eu Samuel Paty et Dominique Bernard. On voit que la peur est très, très pressante. Donc, ça, c'est la première chose que je voulais dire. Mais après, il y a eu aussi je ne sais pas si c'est parce que les 10 ans sont passés, mais le gouvernement danois a passé une loi sur le Coran pour mettre fin à... On avait ce monsieur qui brûlait les Corans comme manifestation, et on a voulu faire terminer ça. Depuis 2022, on a eu une loi pour mettre fin à des gens qui brûlaient le Coran comme manière de protestation, où maintenant on a réinstauré le blasphème. Donc c'est interdit de brûler ou d'offenser des écritures sacrées, des religieuses.
Et est-ce que ça a un impact sur les caricatures et la liberté de la presse ?
Pour moi, c'est une entrave énorme à la liberté d'expression. Je ne suis pas le seul à le penser, mais c'est une soumission aux extrémistes religieuses qui est complètement inacceptable, mais qui a été fait par le gouvernement danois pour mettre fin à ces malheureuses brûlures de Coran.
La loi contre le blasphème au Danemark pose donc question, mais au Portugal, la caricature se porte bien. En témoigne le dessinateur multiprimé de l'Expresso, Antonio. À 71 ans, il est une référence mondiale dans la profession et il a eu pour règle de toujours faire le dos rond en cas de polémique, y compris lorsqu'un de ses dessins publiés dans le New York Times avait suscité un tollé. À Lisbonne, Marilyn Darcy.
L'affaire remonte à avril 2019. Trump est au pouvoir aux États-Unis et le New York Times publie dans ses pages un dessin qui va faire grand bruit. Le chef de l'État nord-américain y est représenté portant des lunettes noires d'aveugle et une kippa. Il tient en laisse un teckel au trait de Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien doté lui d'une étoile de David. Les accusations d'antisémitisme ont alors fondu sur l'affluent quotidien américain, à commencer par Trump lui-même et sa famille, son fils Donald Trump Jr. qualifiant le dessin de répugnant. Le quotidien présente des excuses, puis peu après décide de ne plus publier de caricatures dans ses pages internationales. Cette décision surprenante provoque un tollé international dans la presse et dans les milieux intellectuels qui crient à l'atteinte à la liberté d'expression. À Lisbonne, le dessinateur Antonio s'est contenté de hausser les épaules. Lui n'a vu, selon ses propres termes, qu'un homme politique aveugle mené par son chien à l'heure des implantations illégales en Cisjordanie et à Gaza. Le dessin avait déjà été publié dans l'Expresso, hebdomadaire portugais de référence qu'il a contribué à créer. Antonio ne revendique que son droit à l'irrévérence, celle de la caricature, qu'il a embrassée plutôt que la peinture, car la jugeant plus efficace. Les dessins d'Antonio ne se reconnaissent au premier coup d'œil, et ce, depuis 50 ans. Il a été récemment décoré de la médaille de la liberté, signe de sa reconnaissance pour son engagement. Quelques-unes de ces caricatures internationales ont fait sensation encore récemment. Trump, à nouveau, sifflotant à une fenêtre grillagée, portant une cravate rouge, se terminant par des nœuds comme ceux que l'on fait au drap pour s'évader de prison. Sarkozy, en petit empereur, s'aidant d'un escalier pour accéder à une chaussure. Marine Le Pen et son sourire de façade, traînant un énorme boulet constitué de billets de banque. À l'heure où Donald Trump revient au pouvoir et où Benjamin Netanyahu s'accroche au sien, la caricature du dessinateur portugais a encore de beaux jours devant elle.
Les réseaux sociaux, incroyable caisse de résonance pour les polémiques et les fake news. Mais les fausses nouvelles sont-elles contemporaines d'Internet? Sûrement pas, répond une exposition que vient d'ouvrir à Budapest la Maison européenne de l'histoire. On y apprend que la falsification des faits, des documents et les montages de faux événements remontent à l'Antiquité. Le nouveau musée a pour ambition d'explorer le passé partagé des Européens en partenariat, et ce n'est pas un détail, avec l'Open Society du philanthrope américain George Soros, bête noire du régime hongrois. Visite à Budapest avec Florence Labrouillère.
Au centre de la capitale hongroise, un grand édifice abrite les archives de l'Open Society, la société ouverte, la fondation de George Soros, le philanthrope américain. Si l'université fondée par Soros a été chassée du pays par le gouvernement Orban, les archives de la fondation, elles, sont toujours à Budapest. Elles accueillent actuellement l'exposition Fake for Real, vrai ou faux, sur la fabrication des fausses nouvelles au cours de l'histoire. Une exposition conçue par la Maison de l'Histoire européenne à Bruxelles, le nouveau musée européen fondé en 2017. Falsifier l'information, la déformer ou la faire disparaître, le phénomène n'est pas nouveau, observe Constance Hitzel, directrice de la Maison de l'Histoire européenne.
Les falsifications sont très anciennes. Ça date de plusieurs siècles et nous commençons dans l'exposition à parler des falsifications à l'époque romaine. Et donc on commence par ça, mais on montre dans cette exposition que chaque période falsifiait ce qui était le plus important. Donc si aujourd'hui c'est la désinformation, parce que l'information est très importante de nos jours, au Moyen-Âge c'était plus les reliques, les documents de l'Église. Donc en fait l'exposition montre des siècles d'histoire avec différents types de falsifications.
Et oui, les Romains se livraient déjà à la falsification. Dans une vitrine de l'exposition, on voit la copie d'une mosaïque romaine datant du 3e siècle après Jésus-Christ. Le visage d'un personnage a été martelé, il est méconnaissable. C'était le sort réservé aux notables qui faisaient l'objet d'une condamnation ou que l'empereur voulait faire disparaître de la mémoire, explique Simina Badica, commissaire de l'exposition.
Si cette personne était condamnée, même si c'était enfin, pour des fautes qui étaient vraies ou pas, ça on ne sait pas, mais il y avait une partie de la condamnation qui était l'effacement de l'histoire. Alors là, on effaçait ses représentations, c'est ce qu'on voit ici, alors vraiment on effaçait son visage de représentation, on effaçait son visage des statues qui étaient après transformées dans des autres visages. Alors la statue, parce que le marbre, disons, était précieuse, alors on ne détruit pas, mais on change la face et tout d'un coup, c'est un autre personnage qui est représenté et de tout écrit qui mentionne son nom.
Une section de l'exposition est consacrée au Moyen-Âge avec ses fausses reliques. Des objets ayant soi-disant appartenu à des saints étaient vénérés par les fidèles qui y croyaient dur comme fer. Les commissaires de l'exposition ont ajouté à cette section un objet contemporain.
Il y a une cadre dorée avec la photo de Lady Di, elle est très belle, elle porte sa petite couronne de diamants. Il y a la signature de Lady Di et puis il y a une petite mèche de cheveux, mais vraiment, vraiment quelques fils de cheveux. Et puis, ils disent que c'est « an authentic strands of Princess Diana's hair ». C'est une mèche de cheveux authentique. Et en fait, sur le dos, on ne le voit pas ici, mais sur le dos, il y a un certificat d'authenticité qui est signé par n'importe qui, je ne sais pas. On a acheté cet objet, comme vous le voyez ici, sur eBay.
Comme le Moyen-Âge, le XXe siècle a produit des fausses reliques à l'appel. Pour Simana Badica, cela montre que, quelle que soit l'époque, les croyances sont plus fortes que la vérité.
Ce désir d'être dans la proximité de, je sais pas, du pouvoir, de l'exceptionnalité, ça c'est quelque chose qui fait penser et qui nous lie à ces gens du Moyen-Âge.
Les thèses conspirationnistes ne datent pas des réseaux sociaux, comme le montre l'histoire du massacre de Katyn. Au printemps 1940, en pleine Deuxième Guerre mondiale, des milliers d'officiers polonais sont assassinés par la police secrète soviétique dans la forêt de Katyn. Staline accuse les nazis de ce crime de masse. Il nomme une commission d'enquête fantoche qui manipule les faits, détruit des documents et en fabrique d'autres pour prouver la responsabilité des Allemands. 8 décennies plus tard, les manipulations de l'histoire n'ont pas disparu. Pour István Reeve, directeur des archives de l'Open Society, il était important d'organiser l'exposition en Hongrie, alors que l'actuel gouvernement de Viktor Orban prend beaucoup de liberté avec l'histoire.
Le gouvernement a réécrit les manuels scolaires d'histoire. Il investit énormément d'argent dans la réécriture de l'histoire de l'invasion des Mongols au XIIIe siècle et de celle des Ottomans au XVIe siècle. En 2026, ce sera le 500e anniversaire de la bataille de Mohács, où les Ottomans ont défait les Hongrois. Le gouvernement voudrait présenter ces événements comme un combat héroïque et non comme une défaite.
À travers le thème de la mémoire et de la réécriture de l'histoire, l'exposition emmène les visiteurs dans un voyage à travers l'histoire de l'Europe. Constance Hitzel, directrice de la Maison européenne de l'histoire.
L'idée, c'est quand même de voir qu'est-ce qu'on a en commun de notre histoire. Donc, en fait, les processus historiques du 19e et du 20e siècle sont souvent transnationaux. Les guerres, évidemment, les deux guerres mondiales, mais aussi la Shoah, le communisme, sont des phénomènes transnationaux et qui s'expliquent mieux, de notre point de vue, si on les regarde d'un point de vue européen, voire global, et non pas seulement comme les musées nationaux, d'un point de vue national.
L'exposition « Vrai ou faux » explore aussi la guerre actuelle en Ukraine. On peut y visionner des reportages filmant les chars russes attaquant l'Ukraine le 24 février 2022 et les comparer aux images de la télévision russe qui, plusieurs semaines plus tard, continue à affirmer que l'armée russe n'a pas envahi l'Ukraine.
« C'est effectif depuis ce mois-ci. La Bulgarie, tout comme la Roumanie, ont accédé pleinement à l'espace Schengen, soit l'espace européen sans frontières et sans contrôle. Il aura fallu attendre 18 ans après leur adhésion à l'Union européenne pour que cette ouverture soit effective. L'impact sur le commerce et les transports routiers a déjà été évalué, mais les particuliers aussi se réjouissent de cette mesure qui n'est pas que symbolique, car elle leur évitera de longues heures d'attente au poste frontière. Reportage en Bulgarie de Damien Vodenicharov.
Concrètement, l'adhésion à l'espace Schengen ne va pas bouleverser la vie des Bulgares. Les citoyens ont le droit de libre circulation depuis 2007, mais désormais, se rendre dans les pays voisins sera beaucoup plus facile. Tsveti et Dimitar sont les premiers à se réjouir de l'entrée de la Bulgarie dans l'espace Schengen. Ils passent la majorité de leurs vacances et de leurs week-ends en Grèce. En tout, ils font une trentaine de séjours chaque année.
Je veux qu'on prenne des petits trucs comme ça pour les fourrer entre les sièges, sous les sièges.
Oui, oui, là ça va. On va pouvoir embarquer la poussette aussi.
Tsveti et Dimitar sont tombés amoureux de la Grèce il y a quelques années, au point où ils prennent désormais des cours de langue. Leur nouveau-né est également de la partie.
Notre bébé avait un mois à peine lorsqu'il a visité la Grèce pour la première fois. À 3 mois, il y était allé 2 fois. Et là, ça va être son 3e séjour à 5 mois. Et il va y rester quelques jours.
On veut qu'il aime voyager comme nous. Ce genre de choses s'apprend dès le plus jeune âge. Les enfants sont très réceptifs envers leurs parents. Donc les gens qui aiment voyager transmettent cette passion à leurs enfants.
Tsveti et Dimitar partent en Grèce pour les vacances de Noël, un voyage souvent synonyme de tracasserie douanière. Avec l'entrée pleine et entière dans l'espace Schengen, ces mauvaises expériences devraient appartenir au passé.
Il nous est arrivé d'attendre pendant des heures à la frontière. Il sera plus facile de planifier notre séjour aussi. Jusque-là, il fallait suivre les groupes sur les réseaux sociaux pour connaître le trafic à la frontière. On évitait de partir le vendredi soir, par exemple, lorsqu'il y avait de très longues files d'attente.
Clairement, une nouvelle étape dans l'intégration européenne. À leur naissance, dans les années 80, il était impensable pour ce jeune couple de voyager librement.
Nous apprécions vraiment tous ces avantages offerts par l'Union européenne. Voyager sans limite, la libre circulation de personnes, de marchandises, c'est quelque chose d'exceptionnel. Non seulement pour nous, les touristes, mais surtout pour les entreprises.
Le soulagement au niveau du trafic frontalier est une aubaine pour les transporteurs routiers. La levée des contrôles douaniers aux frontières avec la Grèce et la Roumanie rendra leur travail beaucoup plus facile et agréable, explique Yordan Arabadjiev, directeur de l'Union des transporteurs internationaux.
On peut traverser le pont sur le Danube en 1 minute sans devoir attendre. Il faut juste payer le tarif et on peut y aller. C'est un soulagement énorme pour les routiers qui devaient attendre 10 heures, 20 heures, parfois même plusieurs jours.
Les entreprises de transport devraient par ailleurs profiter financièrement de l'espace Schengen. Les grands partenaires commerciaux de la Bulgarie sont tous situés dans l'Union européenne, donc dans l'espace Schengen. L'Allemagne d'abord, avec des échanges évalués à plus de 9 milliards d'euros, d'après l'Institut national des statistiques. La Roumanie en seconde place, avec des échanges frôlant les 5 milliards d'euros en 2024. Il s'agit surtout de produits chimiques, de machines et de minerais. D'après les calculs de l'Académie bulgare des sciences, les bénéfices de l'entrée dans l'espace Schengen s'élèveront à plus de 800 millions d'euros. Yordan Arabadjiev.
Cela aura un effet direct sur les heures supplémentaires et les salaires des routiers, sur les frais de dédommagement en cas de retard. Lorsque le transport n'est pas rapide, il n'est pas attrayant.
Le jour de l'an, les ministres de l'Intérieur bulgare et roumain se sont donné rendez-vous au poste frontière pour lever une dernière barrière symbolique. Un succès historique pour nos pays, de l'avis du ministre de l'Intérieur bulgare Atanas Ilkov. Côté passagers, les témoignages sont enthousiastes sur les réseaux sociaux. Des vidéos enregistrées en voiture par des Bulgares rentrant de vacances ont fait le tour du net. Comme quoi l'espace Schengen est bien une réalité.
Accent d'Europe était réalisé par Théo Raison. Retrouvez-nous en podcast sur notre site et sur les réseaux sociaux. À demain.